Hey, on a de la difficulté à avoir le français respecté partout au Canada, puis là, ils veulent une autre langue officielle?
Accès libre.
Onde, Luc Fortin, en compagnie de Maurice Bolduc à la mise en onde, à la recherche de cet accès libre. Premier du mois d'octobre 2018, ben oui, il sera question de reconnaissance de la langue des signes, que ce soit le American Sign Language, la langue des signes du Québec, la Indigenous Sign Language pour les peuples autochtones. Il y a même une langue inuite signée apparemment. Je ne sais pas si on va avoir le temps de parler de tout ça, mais une grosse demi-heure avec Darren D. Daz et Martin. Également, la santé mentale chez les jeunes. On parle jamais de santé mentale. Oui, de TDAH, oui, mais de schizophrénie, de bipolarité, de... On n'en parle pas, on les voit pas. Ben, la Fondation Les Petits Trésors, elle travaille pour eux. Ce sera également question de surdiagnostic. Et dans les prochaines minutes, les États-Unis ont décidé d'offrir une prime égale aux médaillés paralympiques qu'ils avaient déjà offert aux médaillés olympiques. Est-ce que le Canada pourrait emboîter le pas? Salutations, Martin Richard.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va, toi?
Oui, ça va très bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est vu dans une autre vie lorsque j'étais pas mal plus près du sport adapté. Martin, qui est directeur des communications et du marketing pour le Comité paralympique canadien. Martin, bon, tu as vu passer ça, cette décision du comité américain qui a décidé au Colorado Springs d'offrir, je crois que c'est 37 000 aux médaillés d'or. On parle d'1,5 million à peu près là, d'augmentation dans le budget pour niveler les gains des médaillés paralympiques aux gains des médaillés olympiques. La question, est-ce nécessaire? C'est une bonne idée, tout le monde est pour la vertu, mais il n'y a personne qui fait de la compétition pour gagner 37 000 piastres comme médaille d'or?
C'est un très bon point. Et en fait, moi, j'ai l'opportunité de parler à plusieurs athlètes dans mon travail, que ce soit paralympique ou olympique. Et puis, de notre côté, au Canada, on a un programme très semblable pour nos Olympiens. Et puis, je vais citer Adam Van Coverden, qui m'a déjà dit, il dit, écoute...
Il est bien bon des bateaux, lui.
Ah, lui, il est excellent.
Ouais, ouais, ouais.
C'est un héros canadien. Et Adam, il avait beaucoup de difficultés avec le mot incitatif. Parce que lui, il disait, écoute, moi, là, je ne vais pas m'entraîner à chaque jour. Je ne vais pas vivre une vie d'athlète. Donner tout ce que je peux à ma compétition pour gagner de l'argent. Ce n'est pas ça mon incitatif. Mon incitatif, c'est mon résultat, c'est ma fierté, etc., etc. Le montant d'argent qui m'est versé après parce que j'ai remporté une médaille, c'est un petit bonus. Mm-hmm. C'est un merci, c'est félicitations, un beau petit bonus qui va l'aider à continuer sa carrière, mais c'est à peu près tout. Et c'est de même pour les athlètes paralympiques. Est-ce que c'est une bonne idée? Absolument.
Pour la symbolique, surtout.
C'est symbolique.
Ben oui.
Mais je pense qu'au Canada... ça serait encore plus symbolique et plus puissant si on reconnaîtrait les médailles paralympiques du même niveau qu'une médaille olympique. Mais c'est pas nécessairement...
Qu'est-ce que vous voulez dire?
La reconnaissance. On a un athlète qui gagne une médaille olympique, première page de pratiquement tous les médias à travers le Canada. Mm-hmm. Est-ce que c'est la même chose du côté paralympique? Pas tout à fait.
Mais ça, le gouvernement n'a pas de pouvoir là-dessus. Par contre, de décider lui-même de niveler, si on veut, les gains, ça a une grosse portée symbolique. C'est pour ça que je disais, c'est peut-être pas nécessaire parce que les athlètes ne le font pas pour ça, mais je trouve que c'est une grande valeur pour le handicap au Canada. Ce serait de dire... On est d'accord, on vous donne la place comme chacun, chacune veut sa place.
Absolument. Et de notre point de vue, au Comité paralympique, ça devrait être égal. Mm-hmm. Est-ce qu'on aimerait y arriver? Absolument. C'est quelque chose qu'on viserait. Mais il y a tellement un gros travail et il y a tellement un besoin d'investissement sur la base, la fondation, le système, comment on encadre nos athlètes, etc., l'incitatif n'a pas toujours été la priorité numéro un. C'est dans la liste de priorités.
Okay.
Évidemment, on vise toujours à aller chercher plus de fonds pour supporter nos athlètes, nos entraîneurs, nos fédérations sportives. Et si on s'y rend à un point où il y a quelqu'un, un commanditaire ou bien quelqu'un qui veut contribuer à notre fondation, par exemple, qui est très qui veut supporter cette initiative-là, absolument, on aimerait être en position d'offrir ça à nos athlètes. Mais pour l'instant, c'est pas notre réalité d'aujourd'hui.
Mais
on le vise quand même.
Je remarque que la décision américaine a augmenté de 400% le cachet offert aux médaillés paralympiques. Ça, c'est énorme. Là. On se rend compte à quel point il y a du retard. Est-ce qu'on a des comparatifs canadiens? Est-ce qu'on sait la différence entre, disons, une médaille d'or olympique et une médaille d'or paralympique?
Mais nous, on n'a pas de programme de bonus, disons, pour les médaillés.
Ils n'ont rien?
Au Canada, on n'a pas les fonds pour pouvoir remettre ça à un médaillé. Mais ce n'est pas une contribution du gouvernement du Canada,
okay,
ou bien du gouvernement provincial. Les contributions qui sont faites directement aux athlètes, eux appellent ça des brevets, c'est un montant, peu importe si tu as une médaille ou pas.
Ouais,
c'est
pour t'entraîner.
Exactement. Mm-hmm. C'est pour soutenir l'athlète dans sa conquête de médaille.
Mais est-ce que c'est la même chose pour les Olympiens, Martin?
Oui, les Olympiens.
OK, ils n'ont rien non plus.
En fait, non. Ça c'est les Olympiens, à travers d'un programme du Comité olympique canadien, donc différentes organisations, à travers de leurs commanditaires, ils ont un programme qui donne des bourses aux médailles.
Okay.
Donc, ce n'est pas égal encore.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Mais la réalité aux États-Unis, c'est que sont un comité, qui est le Comité olympique des États-Unis, qui gère les Olympiques et les Paralympiques. Donc, de eux, je trouve que c'est un bon geste de leur part de dire, écoute, nous, on offre ça à nos Olympiens. La même organisation, en théorie, devrait le faire pour les Paralympiens. Ils l'ont fait.
Ouais.
Et on les applaudit. C'est un bon geste. Mais leur système est très différent que le nôtre. Eux n'ont pas autant de programmes qui vont directement aux préparations des athlètes, soit pour défrayer les coûts de camp d'entraînement ou les coûts d'équipement, par exemple. Ils n'ont pas cette infrastructure que nous, on a au Canada.
Okay.
Donc, nous, nos investissements touchent plus qu'une personne.
En amont.
Donc, si je donne de l'argent à mon médaillé, c'est bien, il reçoit une bourse, fantastique. Mais est-ce que ça va avoir un impact sur ses coéquipiers, disons, dans le sport de ski de fond?
Ouais. Si j'ai à choisir, j'aime mieux effectivement qu'on mise sur l'entraînement et une pluralité d'athlètes plutôt que sur ceux et celles qui gagnent. Surtout qu'en Jeux paralympiques, on le sait, il y a toutes sortes de catégories, il y a toutes sortes de... Je veux dire, tu peux compétitionner contre 6 athlètes versus l'autre qui compétitionne contre 60. Alors, un aurait plus de chance que l'autre, ce qui n'est pas le cas avec les brevets. Martin Richard, c'est malheureusement tout le temps que j'ai, mais merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. C'est éclairant et il faut que ce dossier-là fasse des petits. Martin Richard est directeur des communications et du marketing pour le Comité paralympique canadien.
Le petit bois de trousse chemise, quand la mer est grise et qu'on l'est un peu. Dans le petit bois de trousse chemise, on fait des bêtises, souviens-toi, nous deux. On était partis pour trousse chemise, guettés par les vieilles derrière leurs volets. On était partis, la fleur à l'oreille, avec deux bouteilles de vrai muscadet. On s'était baigné à trousse chemise, la plage déserte était à nous deux. On s'était baigné à la découverte. La mer était verte, tu l'étais un peu. On a dans les bois de trousses chemises déjeuné sur l'herbe, mais voilà soudain que là, j'ai voulu, d'un élan superbe, conjuguer le verbe aimer son prochain. Et j'ai renversé ma trousse chemise, malgré tes prières à corps défendant. Et j'ai renversé le vin de nos verres, ta robe légère et tes 17 ans. Quand on est rentré de trousse chemise, la mer était grise, tu ne l'étais plus. Quand on est rentré, la vie t'a reprise, t'as fait ta valise, t'es jamais revenu. On coupe le bois à trousse chemise, il pleut sur la plage des mortes saisons. On coupe le bois de la cage, où mon cœur trop sage était en prison.
C'était quoi ça, Maurice? Trousse chemise?
Yep.
Trousse chemise. OK. Maurice, qui est très, très affecté, je dis pas ça, il écoute du Aznavour depuis, mon Dieu, l'autre émission avant nous.
Même aux voix de service depuis 9h ce matin.
Oui, parce que pour ceux qui ne nous écoutaient pas en direct, ben on a appris le décès cette nuit, donc voilà pourquoi, pour nous, c'est encore tout récent. Pour vous, peut-être qu'on est passé à autre chose. Julien Prudhomme, bonjour.
Bonjour.
Julien, qui est professeur adjoint au département des sciences humaines à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je voulais causer avec Julien de ce surdiagnostic qui est de plus en plus fréquent. En même temps, le danger, évidemment, c'est qu'il y ait sous-diagnostic. Parlons d'abord du diagnostic intempestif.
On parle parfois, vous avez raison hein, de le dire, on parle parfois de surdiagnostic parce qu'il s'agit d'un problème de plus en plus reconnu dans le monde de la santé. Mmh. Et vous avez raison de faire le lien avec l'excès inverse qui serait le sous-diagnostic. Et c'est parce que les deux peuvent exister qu'on se retrouve face à un problème très important qui est pour nos professionnels de santé, nos établissements de santé, mais aussi nos établissements scolaires, de se poser la question... Est-ce que je fais bien de poser un diagnostic? Ou est-ce que je fais bien d'exiger, dans certains cas, un diagnostic pour que les personnes puissent accéder à tel ou tel service?
Ben c'est ça. Je sais qu'au Québec, c'est comme ça. Je ne sais pas si... Parce que c'est un problème de plus en plus planétaire.
Absolument.
Que le surdiagnostic. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les pays, mais on sait très bien que si le bout de chou, si on prend juste les enfants, veut du soutien, il doit être diagnostiqué d'un mot, M-A-U-X quelconque. Mm-hmm. Alors, on se dit, on ne va pas lui priver. Ce qui fait que parfois, on va peut-être être un peu trop conciliant, ça se peut-tu?
Bien, c'est qu'un diagnostic peut avoir plusieurs usages. Vous posez très bien le problème, je pense. Un diagnostic est utile lorsqu'il est un bon outil clinique, c'est-à-dire qu'il permet d'améliorer les services qu'on va donner à une personne ou un petit bout de chou ou à une autre personne. Mm-hmm. Par contre, un diagnostic peut être un peu perverti, entre guillemets, si on commence à en faire d'autres usages. Par exemple, si on en fait une espèce de ticket administrative pour avoir le droit d'accéder à un service. Puis c'est là que si le diagnostic devient un ticket puis qu'il cesse de devenir uniquement un outil clinique, ben on peut être tenté, par exemple, de le donner rapidement parce qu'on veut le bien de la personne, on veut le bien de l'enfant. Puis là, le droit au service devient conditionnel à un droit au diagnostic.
Mm-hmm. Julien Prudhomme, est-ce qu'il est... en tout cas, néfaste, le moins peut-être fort, mais pervers un peu également d'avoir un diagnostic où, là, je m'identifie à ce diagnostic-là toute ma vie et ça change peut-être ma perception des solutions, de « Ah, oh, c'est pas de ma faute parce que » ou encore « Je suis pas capable à cause de... »
Ça a toutes sortes d'effets. Ben un diagnostic, c'est un outil clinique au même titre peut-être qu'un médicament ou qu'une opération. Puis dans tous les cas, quand on pose un diagnostic, il faut soupeser le pour et le contre. Il faut soupeser les effets positifs et les effets négatifs du diagnostic. Mm-hmm. Et effectivement, parmi les effets négatifs qu'il faut soupeser, ça ne veut pas dire qu'il faut s'empêcher de diagnostiquer parce que ça a des effets sur la personne. Ouais. Mais on sait que les diagnostics, y compris les diagnostics soit de santé mentale ou diagnostics de, qui parlent de déficience autant physique qu'autre, mm-hmm. Qui parlent de difficultés d'apprentissage. Si je parle de troubles d'apprentissage, dyslexie, troubles d'attention, etc. Bon, on sait que ça a des effets sur la psychologie de la personne, vous l'avez bien nommé. Ouais, hein? Ouais. Ça a des effets aussi sociaux sur la façon dont la personne est perçue par les autres gens et par les institutions. On sait, parce qu'on a des bonnes études là-dessus, que l'école, les enseignants, ne traitent pas les élèves de la même façon quand ils ont un diagnostic ou pas, peu importe leur comportement. Ouais. On sait que les cours de justice ne traitent pas les personnes de la même manière selon qu'elles ont un diagnostic de santé mentale ou pas pour un même comportement, et ainsi de suite.
Comment faire pour éviter le surdiagnostic? Risquer de...
C'est toujours ça, le dilemme est cornélien. Hein. On sait que le surdiagnostic, d'une part, ce n'est pas le propre des diagnostics entre guillemets mous. T'sais. On sait que des diagnostics comme le trouble d'apprentissage ou la dyslexie ou le trouble d'attention, on sait que ça, c'est très débattu. Mais on sait qu'un problème de sur- ou de sous-diagnostic, ce n'est pas propre à ces catégories-là. Ça s'applique aussi à des catégories qui paraissent très certaines, comme le cancer. Par exemple, on sait qu'il y a certaines catégories de cancer où on a un gros problème de sur-diagnostic, toutes sortes de raisons. Comment régler le problème? Je vous dirais que ce qu'on évoquait tantôt, s'assurer que le diagnostic... s'assurer d'une part qu'on utilise des outils cliniques qui sont convenables, des tests, par exemple, des outils d'évaluation qui sont convenables.
Je pensais que ça, c'était déjà le cas, là.
Non, il y a des débats, ça ne veut pas dire que c'est je ne veux pas sombrer dans l'anti-science et dire qu'on fait absolument pas bien les choses.
C'est pas un questionnaire sur Internet qui...
C'est ça, puis le fait est que, il y a la question des outils cliniques. Il y a la question aussi, il faut s'assurer qu'on diagnostique pour les bonnes raisons, comme on disait tantôt. Si on diagnostique parce qu'on sait que ça va, un bon diagnostic qui a des bons effets, c'est quand on l'applique à une personne dont on s'occupe déjà, puis qu'on se dit qu'un diagnostic, ça nous aiderait à l'aider mieux, de façon plus appropriée, plus personnalisée. Là où on peut être tenté de faire des diagnostics pour des moins bonnes raisons, c'est lorsqu'on se dit qu'on ne va pas s'occuper de la personne tant qu'elle n'est pas diagnostiquée.
Ouais.
Là, on a un problème, parce que là, on commence à imposer, d'une part, on a pris le problème, c'est qu'on ne s'occupe pas de la personne en temps opportun, très souvent. Ouais. Le second problème, c'est qu'on... On crée la tentation, et chez les professionnels, et chez la personne ou ses proches, de vouloir chercher le diagnostic pour avoir accès au service, ce qui n'est, sans égard aux autres effets, sans égard aux questions, est-ce que c'est vraiment nécessaire? En as-tu vraiment besoin, pour paraphraser? Est-ce que les aspects positifs pèsent plus lourd que les aspects négatifs dans un monde où on s'occuperait des gens, et là je m'aligne beaucoup sur les visions inclusives ou les approches les approches plus respectueuses des situations de handicap. Si on s'occupe des gens sans exiger un papier ou sans exiger un diagnostic, déjà on réduit la tentation de surdiagnostiquer ou de diagnostiquer pour des moins bonnes raisons.
Un sujet en tout cas qui va préoccuper les experts d'un côté comme de l'autre encore pour... Il y a des chances, une bonne période. Julien Prudhomme est professeur adjoint au département des sciences humaines à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci beaucoup, beaucoup d'être passé en studio.
C'est un grand plaisir.
On parle de santé mentale chez les jeunes avec Mme Lauzon, Sylvie, qui est directrice générale de la Fondation Les Petits Trésors.
Salut tout le monde, je suis en compagnie de Frédérica. Frédérica qui vient d'enregistrer avec nous la publicité que vous allez entendre à la fin du mois de novembre à la télévision et que vous allez voir un petit peu partout. Alors Frédérica, on parlait d'une tempête dans la tête dans cette pub-là. Toi, est-ce que ça ressemble à ce que tu vis des fois?
Oui, souvent je pète mes coches sans le vouloir parce que je peux pas me contrôler. Mais oui, je vis ça souvent.
Comment t'as trouvé ça, l'expérience d'enregistrer des voix comme ça pour une publicité à la télé?
C'était vraiment bien parce que plus tard, moi, je veux devenir soit actrice ou pâtissière, mais plus actrice parce que je peux faire des choses. Puis je passe à la télé, en film, en vidéocassette. Puis j'aimerais bien comme improviser comme ça, comme j'ai fait.
Quand tu pètes ta coche, tu m'en as parlé plusieurs fois aujourd'hui, ça ressemble à quoi et comment tu te sens après, toi?
En fait, quand je pète ma coche, c'est que je bardasse un peu tout, comme je le remarque pas parce que je suis la bête, ma coche. Puis...
Donc là, il y a quelque chose qui arrive qui fait pas ton affaire et là, tu n'es pas capable de te contrôler. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Là, il y a une tempête. Décris-moi la tempête dans ta tête.
Ben, je vais te donner un exemple. Une fois, j'ai pété ma coche. J'ai commencé à bardasser un peu tout, puis j'ai cassé une chaise. Donc, ça a fait... C'est comme s'il y avait une tornade dans ma tête qui ne pouvait pas s'arrêter, qui me disait « Tu dois faire ci, tu dois faire ça, contrôle-toi pas. » Moi, j'essaye de me contrôler, mais je ne peux pas malgré moi.
Et quand c'est terminé, comment elle se termine? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi ça se termine tout à coup, cette tempête dans ta tête?
Parce que je respire ou je m'endors.
Et qu'est-ce qui reste autour de toi? Est-ce que tu as de la peine? Est-ce que ça fait de la peine à ta maman, à ton père, à ton frère? Qu'est-ce qui se passe chez toi ou à l'école après une tempête?
Ça fait beaucoup de peine à ma famille parce que des fois, je leur fais mal sans le vouloir. Et moi aussi, ça me fait beaucoup de peine parce que je me dis, tu te fâches, mais tu t'en rends pas compte, puis c'est mauvais. Donc, il faut que j'apprenne à me contrôler.
Et ça, est-ce que tu es en train d'apprendre à te contrôler?
À l'école, ouais.
À l'école, oui. Puis à la maison, ça va venir bientôt, tu penses? Merci beaucoup, Frédérica, de nous avoir parlé de ta tempête.
De rien.
Et la tempête dans la tête, qui est le nom de... qui est le nom de la... La campagne actuelle de la Fondation Les Petits Trésors, Sylvie Lauzon, c'est vous qu'on entendait causer avec Frédérica?
Oui, c'est moi qui parle à la belle Frédérica, 11 ans, qui fait de grands progrès, mais qui en même temps connaît de très grandes difficultés.
Mais c'est drôle d'être obligé de compartimenter, hein? On travaille sur le sujet à l'école, puis éventuellement à la maison.
Bien, à la maison, on écope de tout, hein, pour avoir un fils autiste de 21 ans. De toute façon, même si c'est un enfant qui n'a aucune difficulté, aucun handicap, tu sais bien que c'est à la maison que c'est toujours le pire.
C'est ça. Sylvie, vous me disiez peut-être autour de 20% des enfants auraient des problèmes de santé mentale. C'est là-dessus, d'ailleurs, que la Fondation Les Petits Trésors travaille particulièrement, les enfants en santé mentale et qui vivent avec l'autisme. 20%, nous qui venons de parler du surdiagnostic, n'est-ce pas un peu surévalué?
Ben, je ne pense pas que ce soit surévalué. C'est un enfant sur 5 qui a qu'à demander au professeur, surtout au primaire, là, parce que c'est là qu'on se rend compte souvent qu'il y a des difficultés. Demandez-leur de combien d'enfants avec des problèmes particuliers, combien il y en a dans leur classe. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Et si vous ouvrez vos oreilles et vos antennes et que vous regardez dans votre entourage immédiat, c'est pas très long que vous allez vous rendre compte qu'il y en a 1 sur 5.
Quel est le spectre de la santé mentale? Ça va de où à où?
Bon, le spectre. En fait, il y a 300 diagnostics en santé mentale des enfants comme en santé mentale des adultes. Ça va du trouble sévère de l'attention avec déficit, avec hyperactivité, jusqu'à... L'autisme est à l'autre bout du spectre, mais l'autisme, c'est pas... Les puristes...
Lui-même a son spectre,
oui,
d'ailleurs.
Les puristes vont dire que c'est pas de la santé mentale, mais c'est traité en pédopsychiatrie. L'anxiété qui, aujourd'hui, est en voie de devenir une problématique majeure chez les enfants. C'est pas juste d'être stressé avant un examen, là. C'est quand l'anxiété prend toute la place dans la tête, devient une tempête et qu'il n'y a pas moyen de voir autre chose. Il y a toutes ces problématiques-là, les troubles de comportement, il y a les psychoses, évidemment, qui arrivent parfois chez des enfants. Moi, j'ai à l'hôpital Rivière-des-Prairies, qui est le centre hospitalier qui est associé à la Fondation, on en voit régulièrement. C'est pas la problématique en santé mentale qui est la plus omniprésente, mais elle est là, elle existe. Et d'ailleurs, une des statistiques les plus importantes à part l'enfant sur 5, c'est que 50% des maladies mentales commencent avant l'âge de 14 ans chez les enfants. 14 ans, vous vous doutez bien que... Puis en plus, cette statistique-là, pour moi, elle en dit long parce que c'est rapidement dans l'adolescence qu'on voit qu'on est différent, qu'on a une difficulté qui ne paraît pas physiquement. C'est un des autres problèmes de la santé mentale. Et en même temps, est-ce que c'est parce qu'à 14 ans, on est plus capable d'expliquer ce qu'on ressent?
Oui, ça, c'est bien possible.
Tu sais, parce qu'à 8 ans, chez le psychologue, explique comment tu te sens, c'est pas nécessairement si évident.
Non, c'est sûr. Puis il faut vouloir le faire.
Oui.
Ça fait 8 ans là, que je travaille vraiment de près avec le handicap devant un microphone. Ça fait moins de 5 fois que je parle de troubles de santé mentale chez les jeunes. Comment se fait-il qu'on en parle si peu?
parce qu'il y a encore beaucoup de tabous autour de la chose. Déjà, les adultes n'en parlent pas parce que c'est un petit peu déshonorant de dire à son voisin, à son ami, à sa famille qu'on traverse une dépression. Quand on a un enfant, ça se présente de manière confuse. Ça, on dirait que notre enfant a des troubles de comportement, il fait beaucoup de crises, ça se présente, là, chaque enfant est différent, mais grosso modo, c'est ça. T'as tendance, pour l'avoir vécu moi-même, ton enfant fait une crise en plein centre d'achat, c'est toi le parent qui a pas de bon sens. Alors, c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est difficile à gérer, c'est difficile, ça rend la vie familiale encore plus complexe.
Est-ce que c'est appelé à changer? Parce qu'on parle de tout maintenant, les enfants trans, les enfants...
Oui. Ben oui, c'est appelé à changer. C'est appelé à changer dans la mesure où on va arriver à rendre concrète la maladie mentale. Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est que la maladie mentale? C'est pour ça qu'on a choisi le thème de la tempête dans la tête.
Oui, justement, parlez-moi de la fondation.
Ça touchait tous les diagnostics.
Ouais.
Alors, la fondation, ben, en fait, c'est la au départ, cette fondation-là, les petits trésors, ben, vise à s'occuper des petits trésors, justement, qui ont des troubles de santé mentale et d'autisme. 0 à 18 ans. On va un petit peu plus loin parfois parce que la nouvelle façon de voir les choses, c'est que la santé mentale, la transition se fait mieux quand on va jusqu'à 25 ans. Donc, on s'occupe de tout ce monde-là, de tous ces diagnostics-là. À l'hôpital, bien sûr, il y a des pédopsychiatres et compagnie qui sont là. Et nous, en fait, on soutient l'hôpital dans ses efforts pour faire de la recherche parce qu'on sait encore très peu de choses sur le fonctionnement du cerveau, ce qui fait que ça contribue au tabou, ça. On ne sait pas trop comment ça marche. On contribue aussi aux soins cliniques, à améliorer les soins. On contribue un petit peu à de l'immobilisation autour de l'hôpital, le transfert de connaissances. On appuie aussi des organismes qui font du répit. On a élargi notre mission pour aller rejoindre ces gens-là parce que les familles ont besoin de répit, autant que l'enfant d'ailleurs. Donc, il y a des organismes qui font du répit partout à travers le Québec et d'ailleurs, la Fondation va tenter là, de les rejoindre encore plus dans les prochaines années pour tenter de mettre tout ce monde-là ensemble pour qu'on ait une voix auprès des autorités pour que ça change. Parce que sincèrement, il y a beaucoup de petits organismes qui travaillent partout au Québec, qui ont très peu de moyens et qui survivent plutôt que de penser même à se développer. Alors, on fait ça puis on fait beaucoup de sensibilisation.
Justement,
aussi.
Avez-vous des assises à l'extérieur de Montréal?
On n'a pas d'assises à l'extérieur de Montréal, mais on est présent. Des partenaires à l'extérieur de Montréal. On en a jusqu'à Québec et un petit peu partout là, dans la province.
Et les gens, allez sur le site, vous allez voir, il y a une nouvelle collection de livres pour les jeunes également. Là. Il y a plein de choses dans cette campagne actuelle et il y a plein de choses, malheureusement, trop peu connues. Je parlais à deux professeurs qui ne vous connaissent pas encore et pourtant qui travaillent en orthophonie, en des orthopédagogues. Alors, faut travailler là-dessus. Oui. Sylvie Lauzon, elle est directrice générale. Très bonne ambassadrice. Merci d'être passée.
Merci, Luc.
Nous, on fait sortir Sylvie. On rentre deux invités, plus une interprète LSQ, plus un Facebook Live avec le iPad. Donc, quelques publicités, une toune, on s'installe et on revient avec la reconnaissance.
Écoutez Accès Libre.
Tu ne peux plus supporter. Qu'on te mente tous les jours, en voyant les poignets, ces requins et ces vautours, Massilia est de retour.
Tous les jours ils viennent nous agresser, il paraît qu'on a trop dépensé, il paraît qu'il faut tout rembourser. Moi l'argent je l'ai pas vu passer, il paraît qu'il nous manque des milliards, en euros, en yens, en livres, en dollars. Il paraît que c'est un vrai cauchemar, mais moi je n'ai plus rien dans mes placards. Il paraît qu'on est dans de beaux draps, il paraît qu'on a mangé trop gras, il paraît que ça leur coûte un bras. Moi mon pauvre, je vis comme un rat.
Est-ce tout pas gaga, ouais, est-ce tout pas gaga? Est-ce tout pas gaga, le problème est zakaba? Est-ce tout pas gaga, ouais, est-ce tout pas gaga? Est-ce tout pas gaga, à cause pas compliqué? Est-ce tout pas gaga, ouais, est-ce tout pas gaga? Est-ce tout pas gaga, reste des cartes.
Que paga, que paga, qu'est-ce que vous me racontez? Moi l'argent je l'ai pas, je l'ai tout dépensé. Que paga, vas-y de là, non mais des fois tu m'as arrêté. J'ai déjà trop paga, maintenant faut me lâcher. À force de trop payer, nos anciens en ont crevé. Ne laissant que des dettes à leurs héritiers. Le loyer, les crédits, les impôts nous ont rincé. Le RDS, la CSA nous a pris tout ce qui restait. Tu dis qu'on coûte trop cher, nous autres les immigrés. Tu dis qu'on coûte trop cher, nous autres les ouvriers. Tu
dit donc que trop cher nous entre les employés. Cher aussi les fonctionnaires et les chanteurs de reggae. Qu'est-ce qu'il y a, oh fada, ne me manque pas de respect. Quand tu viens parler de moi dans ta maudite télé, tous ensemble, on revient t'expliquer qu'il n'y a toujours pas d'arrangement. En vérité, les dirigeants du système prennent des airs étonnés. Mais le massif à son système te dit c'est tout payé.
Est-ce tout paga, gaga, ouais, est-ce tout paga? Est-ce tout paga, le problème est Zakaba? Est-ce tout paga, gaga, ouais, est-ce tout paga? Est-ce tout paga, à cause pas complica? Est-ce tout paga, gaga, ouais, est-ce tout paga? Est-ce tout paga, resto des carcula? Est-ce tout paga, gaga, ouais, est-ce tout paga? Est-ce tout paga, et mandolicaga?
Est-ce tout paga, ça veut dire c'est payé? Dédicacé au parler marseillais. Est-ce tout paga, ça veut dire sans concession? Tu peux te la garder ton addition. Est-ce tout paga, ça veut dire c'est gratis? On veut goûter à tous les délices. Est-ce tout paga, c'est fini l'indigence? Ta facture, mets-toi là où je pense. Est-ce tout paga, on veut pousser un grand ouf? Dédicacé à la section à ouf. Est-ce tout paga, on veut pas faire le plongeon? Ça suffit, on n'est pas des pigeons.
On sait bien qui pilote
les financiers.
Qui domine l'Europe?
Les financiers.
Infiltre les États?
Les financiers.
Place leurs candidats?
Les financiers.
Contrôle la planète?
Les financiers.
Qui ont créé la dette?
Les financiers.
Fabrique l'opinion?
Les financiers.
Dicte leurs conditions?
Les financiers.
Veulent l'austérité?
Les financiers.
Et tout privatiser?
Les financiers.
Qui jouent avec nos vies?
Les financiers.
Sans en payer le prix?
Les financiers.
AXA, DEXA, BNP, Paribas,
JP Morgan et les fringes Lehman,
Fortis, Natexis, les rois du vice,
Goldman Sachs, USB, HSBC nous ont cassé.
C'est qui ça, Maurice Bolduc?
Messilia Sound System.
Messilia Sound System. On voulait offrir ce Messilia... J'avoue, j'ai pas écouté les mots. Là, on était pas mal occupés ici à essayer de s'organiser. Mais Maurice me dit, Luc, question d'élection... Il me semble que ça, ce serait de mise aujourd'hui parce que la campagne électorale se termine, parce que notre prochain sujet est un des engagements de, d'une des formations qui essaie de se faire élire aujourd'hui, soit Québec solidaire, qui a dit dans sa plateforme électorale qu'elle, comme formation, serait prête à accepter que la langue des signes du Québec soit reconnue comme langue officielle, à tout le moins ici au Québec, et on peut présumer que la formation ferait des pressions pour que cette langue soit reconnue, tout comme the American Sign Language, the Indigenous Sign Language et une langue signée pour les Inuits, parce que toutes ces langues ont comme possibilité d'être reconnue, du moins plusieurs personnes sourdes canadiennes le demandent. Il y avait d'ailleurs marche à ce sujet-là à Ottawa le 22 septembre dernier. Autour de la table pour en parler, Darren D. Daz. J'oublie ton nom de famille, Saunders. Darren, salut, merci beaucoup d'être là.
Merci beaucoup. Merci de l'invitation.
Et Martin Boucher, bon, Darren est doctorant en linguistique. Maurice, lui, travaille pour, c'est quoi, Also?
Pas Maurice.
Martin. Tu travailles
en
pour?
En fait, je suis très impliquée dans la communauté sourde en général au niveau canadien.
OK. Et tu travailles dans la vidéo également?
Oui, tout à fait.
D'accord. Et c'est pas que Martin et Daz ont la même voix, c'est celle de Joël Fortin qui nous sert d'interprète, qui est là aujourd'hui, qui va dire le prénom de la personne lorsque elle va interpréter. Et en même temps, Joël, si tu veux, toi, comme interprète, tu n'auras qu'à dire Joël et ton deux scènes va valoir ce que ça va valoir. Ça fait combien de temps, messieurs, qu'on souhaite que la LSQ soit reconnue comme une langue officielle?
Darren Daz dit, en fait, ça fait depuis très, très, très longtemps. Je dirais que depuis que la communauté sourde existe, on veut faire reconnaître la langue des signes, qui était vraiment une valeur très, très, très importante pour nous. Donc, je pense que ça fait vraiment longtemps. Martin dit que si on regarde là, dans le monde entier, il y a plusieurs pays qui
143.
Ont reconnu... 143 pays qui ont déjà reconnu cette langue des signes, alors que nous, au Canada, on travaille très fort pour la faire reconnaître. En 2018, puis je pense que là, il est temps de faire avancer les choses, là, comme M. Trudeau le disait.
Ouais.
Daz rajoute... Oui? Je veux pas vous couper.
Non, allez-y, allez-y.
Daz rajoute la langue des signes. Bon, souvent on a l'impression qu'elle est un, on a l'impression que c'est une langue de bas niveau. C'est plus des gestes, un mime qui sert à communiquer, comme une espèce de mode de communication qui est pas officiel. Alors que pour nous, la langue des signes, c'est une vraie langue, une langue à part entière, une langue naturelle qu'on utilise depuis des siècles et des siècles. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est vraiment lorsque les sourds se rencontrent ensemble, ils discutent en langue des signes. La langue aussi a également évoluer. Il y a des familles de mots, il y a l'ASL, il y a l'ALSQ. Donc, ils sont très, quand même, très proches, mais si on regarde en Angleterre, la British Sign Language, c'est plus éloigné, mais chaque pays a sa langue des signes et c'est vraiment naturel comme mode de communication. Alors, nous, les personnes sourdes, on veut la faire reconnaître puisque c'est notre besoin pour avoir accès, justement, à différents niveaux de la société. Ça va nous permettre d'avoir un accès égal.
Mais je disais...
On va être un citoyen à part entière.
Je disais en boutade pour ouvrir l'émission parce que, bon, ça fait partie de ma personnalité. De picosser un peu. Je disais, on a de la difficulté à avoir le français reconnu un peu partout au Canada alors que c'est une langue officielle. Est-ce qu'on veut vraiment se taper d'autres langues parlées par une si petite minorité? Qu'est-ce que ça offrirait aux personnes sourdes du Canada, cette reconnaissance-là?
Martin dit, en fait, comme avantage, c'est qu'on serait vraiment au même niveau qu'un tout autre citoyen. Mmh. Lorsqu'on parle de l'éducation des enfants, ils auraient des options de langue. Par exemple, là, les personnes sourdes auraient l'option de prendre soit le mode oralisme ou la langue des signes. Daz dit, mais souvent, on va prendre ça comme une option, comme un dernier choix. Si, par exemple, ça ne fonctionne pas au niveau oral, si ça ne fonctionne pas avec l'implant, si ça ne fonctionne pas de cette façon-là, on y va avec la langue des signes. Alors que là, il y a un retard qui est accumulé. Je pense qu'il y a déjà un retard accumulé chez l'enfant. C'est déjà difficile à rattraper. C'est difficile ensuite de revenir au même niveau, au niveau d'éducation. Donc, ça a des impacts directs sur la vie d'une personne. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit la faire reconnaître, cette langue des signes, pour justement pour offrir le plus précocement possible toutes les possibilités.
Mais qu'est-ce que ça... Puis Maurice, on va laisser faire la toune, on a trop de fun ici. Là. Qu'est-ce que ça offrirait concrètement? Disons, pour vous deux, là, est-ce que ça veut dire que chaque émission de télé, il y aura des médaillons? Est-ce que ça veut dire que chaque fois qu'il y aura un discours officiel, il y aura un interprète? J'imagine. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Daz dit, ben justement, comme là, pour les élections, je pense que c'est vraiment très important. On a un devoir de citoyen, donc on veut pouvoir suivre le débat des chefs. Donc, on a déjà là, travaillé très fort pour avoir accès à des interprètes. Ça a toujours été refusé. On nous dit que, bon, ça va déranger la population en général d'avoir
les
un médaillon.
Les débats n'étaient pas signés.
Non, il n'était pas signé. Donc, il y avait du sous-titrage, mais le sous-titrage, il y a du décalage, c'est pas parfait. Donc, il y a les personnes sourdes qui ont des difficultés aussi avec la langue française, tous selon l'éducation qu'ils ont reçue. Donc, au niveau de l'accessibilité, on n'est pas au même niveau là, qu'un autre citoyen. Puis, c'est pas seulement pour les élections, mais par exemple... Comme Martin me disait, au niveau des transports en commun, c'est difficile. Au niveau du métro, s'il y a une panne, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il y en est. Tout se fait de façon vocale, orale, dans le haut-parleur. Tout est vraiment là, audio-centriste. Donc, c'est vraiment
mais là, on
un
fait
stress,
quoi,
là?
Il n'y a pas un interprète qui va rentrer dans chaque wagon pour signer. Qu'est-ce qu'on fait?
Non, mais par exemple, Martin dit, lorsqu'il y a eu la tornade à Gatineau, il y a une semaine, ça a été difficile pour les personnes sourdes qui demeuraient dans cette région-là parce qu'ils n'ont été aucunement informés. Ils ne savaient pas du tout qu'est-ce qu'ils devaient faire. Donc, s'il y avait une reconnaissance, il y aurait un interprète probablement là, qui aurait pu interpréter les mesures d'urgence à la télévision. Puis ça, c'est pas juste pour les ouragans. Aux États-Unis, comme Daz le mentionne, c'est déjà instauré. Il y a déjà, aussitôt qu'il y a des mesures d'urgence, des catastrophes, il y a déjà un interprète qui est à côté là, des discours, des gens qui font les discours.
Je veux dire, la sécurité est, publique.
Oui, c'est ça. Ici, on n'a rien.
Ah, je comprends. Ça, c'est pour les cas extrêmes. Mais dans le quotidien, extrême mais important, là, j'en conviens, mais pour le quotidien, est-ce qu'il y aurait des implications? On essaie de voir là, bon, combien ça va coûter. Faut-il réouvrir la Constitution? T'sais, on essaie de... Parce qu'on est...
Non, bon,
c'est un peu nono,
non,
mais on
ne
veut pas être trop
dérangé.
Non,
Daz dit, je pense que justement, il y a le projet de loi C-81 qui est au fédéral avec Canada Accessible. Je sais qu'en 2016, le ministre avait dit « Bon, on doit faire peut-être une reconnaissance de la langue des signes américaine et la LSQ. Mm-hmm. » Donc, il y a eu une première lecture, Mais il n'y a rien qui a eu lieu. C'est pour ça que nous, le 22 septembre, on a fait une marche pour dire « Yo, oublie-nous pas! Ouais. » C'est pas nécessaire de rouvrir la Constitution là, pour ça. Là.
OK. Avec moi, vous entendez la voix de Joël Fortin, qui est interprète, pour nous aider à communiquer avec Martin Boucher et Darren Daz Saunders. On parle de la reconnaissance des langues signées parlées au Canada comme langues officielles. Est-ce qu'il y aurait des coûts importants rattachés à ce changement? Est-ce qu'on a une idée de combien ça pourrait coûter?
Martin dit, je pense que nous, on regarde pas le coût, hein? Nous, on regarde, je veux dire, on veut avoir une information complète.
Ouais.
Nous travaillons, hein? Je pense que, on veut avoir une bonne qualité de vie, on a des études, on paie nos impôts. Donc, je pense que c'est un cercle. Hein? Je pense que c'est pas parce qu'on est sûr qu'il y a un coût relié nécessairement à ça. Daz dit, si je peux me permettre de rajouter un commentaire, l'argent retourne à la société par la suite. T'sais, je pense que... au Québec, là, on offre beaucoup de choses pour les personnes démunies, il y a beaucoup de programmes qui existent, mais nous, on peut justement contribuer à améliorer la société. Je pense qu'on peut apporter un apport là, significatif là, à la société, donc faut pas voir ça là, comme un coût vraiment là, relié.
Ouais. Je me tourne vers le doctorant en linguistique. Qu'est-ce qu'une langue, Daz, et quels sont les critères qui désignent, disons, que c'est une langue?
OK. En fait, il y a quelques unités là, linguistiques, qu'on peut... Chaque unité linguistique, on peut les rattacher ensemble, qui va faire créer des mots, des phrases, des concepts. Et bon, qui fait qu'on va exprimer une pensée. En langue des signes, il y a la configuration manuelle, il y a la localisation, il y a les mouvements. Bon, ça, c'est les trois aspects de base, trois unités de base. Là, okay. C'est sûr que je n'irai pas en détail. Et si on les raconte tous ensemble, ça crée une forme... et un sens, au même titre qu'une langue écrite. Donc, on peut avoir plusieurs signes et plusieurs sens, ça va créer un concept. Donc, par exemple, il va y avoir les gestes, il va y avoir la langue des signes, et on essaie de trouver quelque chose d'uniforme pour créer un système de langue. Donc, parce que, bon, dans les gestes, ça peut être très varié. Et dans la langue des signes, par exemple, si je prends le mot « boire », on va prendre... Dans le verbe boire en langue des signes, c'est comme c'est comme si avec notre main on prenait un verre.
Ouais,
okay. Bon. Donc c'est iconique comme mot, mais c'est pas tous les signes qui sont iconiques. Si on regarde le mot toilette, c'est la lettre P par exemple qu'on met sur notre nez. Donc c'est aucune iconicité avec le mot toilette.
D'ailleurs P, ça, il y a même pas le mot P, la lettre P dans toilette. C'est vraiment particulier.
C'est ça, c'est une forme, c'est le signe.
C'est quoi, c'est ça
pas
pue?
Parce que... Ben non, c'est vraiment la forme. Ça a été créé comme par hasard. Bon, okay. C'est hasard, peut-être que c'est la lettre P qui a été utilisée. Donc, c'est vraiment... des fois, comme je vous dis, il y a des images qui vont nous donner le mot, des fois non. Et tout ça fait construire là, une langue...
Y a-t-il des accents? Exemple, bon, nous, les gens dans le lac Saint-Jean, puis en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine et à Montréal, n'ont pas les mêmes accents. Est-ce qu'il y a des accents dans la LSQ?
Ah oui, absolument. Ah, oui, comme moi, Daz dit, je viens d'Angleterre. Hein?
Oui.
Donc, ma première langue, c'est la langue des signes, la British Sign Language. Quand j'ai commencé à apprendre la LSQ, j'avais un petit accent. Et quand j'apprends la SL, j'ai un accent également anglais.
Okay. Hein?
Donc, c'est ce qu'on me dit là, quand je vais signer en ASL.
Joël, j'ai envie, toi qui interprètes justement Daz et Martin, la différence, est-ce que ça se voit dans la gestuelle justement que Daz provient de la Grande-Bretagne et que Martin a peut-être vécu toute sa vie ici?
Personnellement, moi, je ne vois pas la différence.
OK. Donc, c'est peut-être pas aussi évident, ou bien t'as vraiment bien appris ta LSQ, Daz. C'est peut-être ça qui est arrivé.
Je l'espère, en tout cas.
Ouais.
Mais chose est sûre que je suis vraiment intéressée. Là, chaque personne aussi a son style hein, de façon de communiquer. C'est comme les entendants. Lorsqu'ils parlent, ils ont des accents, ils ont des façons de parler. Il y en a qui vont parler vite, parler moins vite, qui vont plus mâcher leurs mots, si je peux dire. C'est la même chose en langue des signes.
Est-ce qu'on s'entend, par contre? Parce que je sais que dans la région de Québec, il y a une autre forme de langue des signes francophone qui est utilisée. Donc, est-ce qu'il y a vraiment consensus dans la communauté sourde?
Martin dit, je sais que dans l'est du Québec, ils vont plus être structurés, ils vont plus suivre la grammaire du français, mm-hmm. la structure. Alors que la LSQ va avoir vraiment sa syntaxe et sa structure. Va avoir une différence, je dirais, entre l'est et l'ouest du Québec, effectivement.
Ouais. Et en plus, nous, on va avoir des utilisateurs de l'ASL dans la même ville. Les anglophones vont parler l'ASL, je présume?
Oui, tout okay. à fait, l'ASL, mais c'est vraiment particulier parce que c'est un ASL montréalais. Parce que, bon, la langue de contact ici, bon, il y a la langue des signes, la LSQ, la langue des signes québécoise qui est très majoritaire ici, et il y a les ASL qui vont être influencés mm-hmm. par la communauté sourde anglophone, qui vont être influencés par la LSQ. Alors, s'ils se retrouvent dans un milieu anglophone, ASL, il va avoir un accent, si je peux dire, montréalais. Ouais. Martin dit ouais. l'ASL, il y a l'ASL canadien, mais il y a l'ASL américain.
Ah oui.
Il y a des accents, là, justement.
Il y a la Canadian American Sign Language. C'est un peu paradoxal.
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Bon, la langue évolue. On a déjà établi ça. Je suis curieux. Donnez-moi un exemple de comment le mot courriel s'est intégré dans la LSQ. Et tiens, est-ce que les sourds chill ou ils relaxent encore?
Martin dit... Dans les années 90, il y a justement les nouvelles technologies qui sont arrivées. Mm-hmm. Il y avait le email hein, qu'on utilisait, puis là, ensuite le mot courriel. Nous, on disait « ordinateur, envoyer une lettre ». C'est ce qu'on disait okay. au tout début.
Okay.
Maintenant, on a vraiment changé, on a créé un mot, puis justement, le signe, c'est la lettre C. Et avec l'autre main, c'est comme si on envoyait un document avec un mouvement là, latéral, si je peux dire, là, entre la lettre C.
Mais comme nous, on a l'Office de la langue française, avez-vous un office de la LSQ? Qui détermine ça?
C'est la communauté sourde, Martin dit. En fait, la communication, c'est lorsque des mots courants, on va utiliser un mot qui va être confortable, puis ça va donner un automatisme que les personnes sourdes vont utiliser. Justement, comme lorsqu'on fait les vidéos sur Facebook. Donc, quand on va être à l'aise avec cette configuration-là, donc ça va s'utiliser puis ça va se répandre. Daz dit, il peut y avoir 2-3 signes qui sont utilisés, par exemple pour le même mot, mais une fois que le signe est vraiment... on prend le signe qui est le plus utilisé par okay. la communauté sourde, puis c'est lui qui va devenir comme officiel. C'est comme collectivement, si je peux dire.
Est-ce que des signes différents pour le même mot, on appelle ça des synonymes également?
Oh, Daz dit, c'est une bonne question, mais
yes!
Oui.
Donc, ce serait des synonymes, mais de signes.
De voir,
Des synonymes. Mais... Hey, comment tu vas traduire ça, synonyme?
Martin, ça dépend vraiment de la phrase. Ouais. Hein? Par exemple... Il peut se signer différemment selon la phrase, selon le contexte. Daz dit, j'essaie de trouver un exemple mm-hmm. là, pour les néophytes, si je peux dire, mais j'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Là, c'est difficile. Là.
Ouais. Est-ce que les parents entendants acceptent bien la LSQ ou on pousse encore très fort l'implant cochléaire?
Martin, dis-moi, j'ai grandi avec un implant cochléaire.
Okay.
Lorsque je suis née, j'ai appris la langue des signes. Mes parents, bon, ils ne savaient pas trop où m'envoyer, si je peux dire, ils m'envoyaient dans une école de sourds. J'avais un implant cochléaire. J'ai pratiqué le mode oraliste pendant 7 ans. Donc, j'ai appris à parler. Puis, je n'ai pas réussi à 100% à parler là, comme quelqu'un là, qui entend. Mmh. Donc, on encourage également la langue des signes parce qu'un enfant qui ne parle pas encore va communiquer aisément avec la langue des signes. Par exemple, pour dire le mot « lait », il ne configure peut-être pas de la bonne façon, mais okay. on va très bien comprendre qu'il veut dire.
Lait L-A-I-D ou lait L-A-I-T?
Lait L-A-I-T.
OK.
Ou par exemple, le mot « encore », mais l'enfant va être plus facilement... c'est facile de communiquer pour un petit bébé en langue des signes avec son corps plutôt que oralement. Puis une fois que son cerveau a évolué, lui, il va choisir est-ce qu'il va préférer le... Il n'est jamais trop tard,
mais
je pense,
repose ma question. Mais... En général, les parents, est-ce qu'ils sont... Parce que je sais qu'il y a eu une époque où on essayait de... travailler beaucoup plus l'oralisme, le langage, le labial plutôt que le signé. Est-ce que c'est encore comme ça?
Daz dit oui.
Ouais, okay.
Je ne dis pas qu'on pousse très fort, mais le système est fait comme ça. Lorsque, par exemple, un petit bébé naît sourd, souvent la médecine, ils voient le problème. Hein, ils veulent régler le problème. pour eux. Donc, ils vont les référer dans les différents services. On peut offrir la langue des signes, mais ils sont tellement, les parents sont tellement sous le choc lorsqu'ils apprennent, comme vous dites, là, c'est une perception de la langue. Hein, donc c'est pas encore là, au même niveau que la langue française. Donc, souvent, on va offrir l'implant cochléaire. Puis, pour eux, c'est comme si on réparait le problème. C'était une solution. Mais comme Martin vient de le mentionner, ça règle pas tout. Hein? Mm-hmm. Il est encore sourd. Là. Il ne devient pas une personne qui entend. Donc, je pense vraiment que c'est important de travailler avec les enfants sourds puis de leur donner tous les choix possibles et toutes les options possibles. Il n'est jamais trop tard. Puis après, l'enfant, s'il préfère communiquer de façon orale ou en langue des signes, il y aura tous les outils pour pouvoir... Il ne faut pas en faire un à la fois. Puis on se rend compte qu'à rendu à 10 ans, l'enfant, bon, ne réussit pas bien d'une telle façon, de ce mode-là, puis d'y aller, de recommencer dans un autre mode. Là, c'est du temps perdu, puis ça crée des retards.
En conversation avec Martin Boucher et Daz... Ah! J'oublie ton nom de famille.
Sander.
Désolé. Et c'est Joël Fortin qui nous sert d'interprète pour parler de la reconnaissance de la LSQ, de la SL également dans le reste du Canada. Est-ce que lorsqu'on regarde, parce que bon, vous parlez de il est encore sourd et tout, même s'il utilise un implant, le petit bonhomme, la petite bonne femme, mais en même temps, j'ai cru comprendre que les utilisateurs de langues signées ont peut-être un petit peu moins de facilité au niveau de l'écrit, au niveau de la lecture, parce que c'est pas la même construction. Est-ce que c'est un désavantage?
C'est une très bonne question. Justement, je pense que si on a une langue solide, une langue de base solide, comme moi, ma première langue, c'est une langue des signes. Mes parents sont sourds.
Ouais.
Donc, la période critique, c'est vraiment de construire une langue. Et ensuite, on peut apprendre d'autres langues facilement. On peut construire. Par exemple, moi, la LSQ, c'est ma quatrième langue. Mm-hmm. Donc, une fois qu'on a une langue solide, une langue primaire solide, maternelle, on peut avoir accès à d'autres langues, que ce soit orale ou que ce soit en langue des signes. Donc, il y a un impact, c'est sûr qu'il peut avoir un impact par après pour la lecture, l'écriture. Ouais. S'il a accès dès le début, dès sa naissance, s'il est sourd, puis qu'il a un accès à la langue des signes, déjà, on est en train de construire quelque chose de solide pour ses apprentissages futurs. Parce que parce que lire sur les lèvres, pour être vraiment compétent, si tu es vraiment compétent, tu peux avoir seulement 25% du message, le reste des déductions. Donc, à 2 ans, comment un enfant peut faire de la déduction? Donc, c'est impossible.
C'est sûr.
C'est impossible.
Au chapitre du sous-titrage, est-ce que ça règle à peu près tout ou encore là, on voudrait voir beaucoup plus de médaillons ou de situations où on voit le signé?
Martin, bon, je sais qu'il y a 4 ans, on a fait une étude comparative là, par rapport au débat des chefs, justement. C'est un projet pilote. Hein? Bon. Il y avait des débats des chefs qui étaient sous-titrés. Puis lorsqu'il y avait un débat avec 2 personnes qui parlaient en même temps, on ne savait pas qui parlait. Et il y avait un décalage énorme. Donc, moi, j'étais vraiment perdue, là, vraiment. Là, je ne savais pas qui suivre, qui disait quoi.
Donc, il aurait fallu peut-être que les écrits soient colorés, exemple, si c'est les libéraux qui parlent, c'est en rouge, si c'est quelque chose comme ça.
Oui, mais à la limite. Mais il ne faut pas oublier non plus que les personnes qui ont des difficultés avec leur vision ne peuvent pas lire, ne peuvent pas voir les couleurs du sous-titrage.
Ouais.
Là.
Mais on peut-tu régler un problème à la fois, là?
Oui, tout à fait. Mais en même temps, je sais, puis c'est robotisé maintenant. Bon, ça, c'est sûr que ça ne règle pas rien au niveau du sous-titrage. Ouais. Là. Ça ne reproduit pas fidèlement le message. Lorsque la télévision en direct, on manque également. Parce que lorsque c'est en direct, là, on manque. Il n'y a pas de sous-titrage, c'est coupé. C'est pas... pour appuyer ce que Martin dit... On peut pas rajouter l'information paralinguistique hein, dans le sous-titrage, par exemple, des soupirs, des bruits ambiants, des expressions, la tonalité, l'intonation, quelqu'un tousse, peu importe.
Ce que le signé fait.
Oui.
OK.
Oui, oui.
OK. Parce que le non-verbal parle, effectivement. Oui, je comprends.
Tout à fait.
Je comprends.
Tout à fait.
Je comprends. Drôle de question, mais je suis curieux. Est-ce que politiquement, Québec solidaire peut s'attendre à ce que, à peu près, toutes les personnes sourdes votent pour eux tellement cette demande-là est importante ou ce n'est qu'une demande, mais une personne sourde n'est pas que sourde, elle est aussi avec d'autres préoccupations et c'est pas dit que tous les sourds vont voter QS?
Moi, je crois que les sourds ont vraiment été là, attirés par cette promesse-là. Donc, c'est un engagement que Québec solidaire a fait. Donc, je crois, parce que ça fait plusieurs années qu'on le demande puis qu'on attend ça. Moi, je crois que les personnes sourdes vont voter pour Québec solidaire. Mm-hmm. Moi, je le dis haut et fort, là. Mais parce que c'est vraiment la première fois, justement, là, que
même ça, le PQ plusieurs... l'a déjà annoncé, non? Il n'y a pas eu déjà une tentative?
Mais j'en ai pas entendu parler, okay. Puis on n'entend pas parler en ce moment, en tout cas.
Non, mais c'est ça, mais il me semble, en tout cas, ce serait à vérifier, mais il me semble que, je sais pas si c'est 2012 ou 2008, là, il y avait eu... un peu comme les
mais
libéraux.
Mais quelque chose qui a été fait?
Non, mais là, c'est ça l'affaire.
Ouais, mais ouais, c'est ça. Ouais,
c'est,
ça. Ouais.
C'est comme les conservateurs avaient déjà parlé d'une loi pour l'accessibilité, mais ça n'avait pas levé, alors que là, bon, M. Trudeau l'avait promis, semble-t-il qu'un Am Cultural chemine là-dessus. On attend toujours le projet déposé. Savez-vous, vous, quand ce sera déposé? Avant la fin du mandat actuel au fédéral?
C'est justement de ça qu'on parlait avec Martin aujourd'hui. Donc, ils veulent essayer de montrer qu'ils font bien les choses. Puis finalement, ça va sûrement être suspendu parce qu'on va changer de gouvernement. Donc, il faut constamment se battre et les ramener à l'ordre. Hein. Faut pas lâcher. Il faut vraiment pas lâcher. Nous, on se bat. Là, la première année depuis les élections, on se bat. Là. On est rendu à la quatrième année là, des élections. Il va y avoir un autre ministre ou un autre député, un autre premier ministre, peu importe, faut toujours se battre.
La bataille n'est pas terminée, ça c'est sûr. Martin Boucher, merci beaucoup. Darren Saunders, est-ce que tu restes avec nous pour la portion balado? Je sais qu'on s'est écrit, mais j'ai pas eu ta confirmation.
Ah, ben oui, vraiment pas de problème.
Parfait. Alors, si vous nous écoutez sur le site web ou sur la balado, ben nous, on n'a pas terminé. Par contre, pour Martin et les autres qui nous écoutaient sur les ondes de la télé ou de la radio, on se retrouve la semaine prochaine. Joël, restez là, on a besoin de vous pour la portion balado. Alors, tant pis à ceux qui ont décidé de pas poursuivre. Nous, on est bien contents. Merci beaucoup, Darren, d'avoir choisi de... Restez avec nous. Darren Saunders dit Daz. Joël Fortin, interprète également, heureusement, toujours avec moi. Je voulais poursuivre parce que dans un article de la presse, Darren, vous avez dit aimer le Québec. Vous vous décrivez comme un québécophile, comme quelqu'un qui a trippé sur le Québec. Et je me demandais, est-ce que c'est facile lorsqu'on est sourd de vraiment... connaître une culture qui est majoritairement pas sourde. Déjà, ça ne doit pas être évident dans sa propre nation, mais d'aller ailleurs avec toutes les particularités, qu'est-ce qui fait que vous avez tellement apprécié le Québec? Vous parlez même d'avoir aimé les valeurs québécoises.
Bon, moi, je suis née en Angleterre. Mm-hmm. Puis c'était vraiment minoritaire. Hein? Puis lorsque je voyais là, que les gens ils se battaient pour leur langue, la langue française, puis ça me touchait un peu. Puis je pouvais comprendre un peu parce que nous, en Angleterre, c'est un petit peu pareil. On est une minorité en Europe qui parle anglais. Puis je sais que c'est important, la langue. Puis c'est des valeurs qui sont importantes. Donc, il y avait quelque chose qui me ralliait avec le Québec. Moi, je suis anglophone, je viens de pays anglophone, mais je comprenais, parce que justement, la BSL, la British Sign Language, n'est pas répandue partout. Donc, c'est ce qui a fait là, que j'ai eu un coup de cœur pour le Québec. Puis c'est drôle, parce que lorsque je suis arrivée ici, fallait signer les valeurs, le québécoise, équité homme-femme, fallait aider les plus démunis, mm-hmm. participation à part entière. Donc, c'est des valeurs qui me rejoignaient. Je dis, waouh, j'ai le Québec, c'est un beau pays d'accueil. Lorsque je suis arrivée, bon, mon français était moyen, mais mm-hmm. j'ai travaillé fort. C'était une langue là, qui m'intéressait. Je suis allée prendre des cours de français. Puis là, je crois qu'ils ont été un peu surpris parce qu'ils devaient adapter le contenu de l'examen, des cours, pour que je puisse avoir accès. Donc, on essaie de trouver un interprète en langue des signes québécoise. Puis j'attendais, puis les mois passaient, puis je les relançais. Puis ils étaient toujours à la recherche d'interprètes. Mais là, les mois passaient, ça faisait presque un an. Je disais, qu'est-ce qui se passe? Mais là, ils ne trouvaient plus mon dossier. Wow. Je dis, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai même signé les valeurs québécoises, comme quoi les égalités entre tous. Là, je dis, moi, j'ai signé tout ça, mais vous ne le faites pas.
Ben ouais.
Donc, c'était triste un peu, là. Donc, j'avais une limitation à ce niveau-là. En tant que personne sourde québécoise, c'est comme si on était mis un peu de côté. Ça m'avait un peu dérangé.
Je comprends, tout à fait. D'ailleurs, le doctorat... c'est quoi, c'est en linguistique, mais C'est quelle langue? Le français ou la langue des signes québécoise? Ou...
La langue écrite ou la langue d'enseignement? Moi, mes études, c'était sur la langue des signes québécoise. Okay. Mais mon mémoire, je l'ai fait en français. Je l'ai écrit en langue française.
Oui, je comprends. Et pourquoi la BSL? Tant qu'à défendre une langue, tant que... Je sais que, bon, vous dites être francophile, mais quand même, la BSL est aussi une langue très minoritaire. Même, j'imagine que l'ASL est en train de supplanter la BSL comme langue signée en anglais.
Oui, tout à fait. Ben, parce que, bon, depuis que je suis tout petit, je voulais apprendre d'autres langues. Okay. Et c'est la langue française que j'ai commencé à apprendre à l'âge de 7-8 ans. On me dit, ben non, en tant que personne sourde, tu dois apprendre l'anglais. Mais j'étais chanceux parce que mon professeur dit, OK, on va donner une chance, on va te donner... T'es bon en anglais, donc on va donner une autre perspective linguistique. On va t'apprendre le français. Et à l'âge de 12 ans, je suis allée à l'école pour sourds en Angleterre, en mode oral. C'était un mode de communication oral. Lorsque je suis arrivée là-bas, j'étais vraiment excitée parce qu'il y avait des cours de français. Tous les élèves, eux, ils...
Donc, ça remonte loin, là.
Oui, ça remonte loin, Puis lorsque on commençait en mode oral, on prononçait des mots en français, par exemple « oiseau », hein, c'est vraiment simple. Tout le monde, bon, essayait de prononcer le mot « oiseau » un après l'autre, puis c'était un mot à dire, là, c'était pas... Puis moi, j'essayais de le répéter pour que ça soit le mieux possible, puis on me disait que je parlais pas bien, puis que finalement, bon, j'avais pas besoin de cours de français, mais... Ça, c'est cette personne-là qui dit que je n'étais pas à ma place parce que je prononçais pas bien le mot « oiseau » qui m'a sabouillé là, en dedans de moi. Là, j'étais fâchée. Puis je pense que j'avais envie de faire une maîtrise, un doctorat en français. Tu sais, je suis capable. C'est un peu comme un pied de nez hein, que j'envoyais là, au professeur qui m'a mis de côté parce que je prononçais pas bien le français. Mm-hmm. Donc, ça l'a un peu guidé ma voix. Donc, ma maîtrise, je l'ai faite en français. Sur la LSQ, sur la langue des signes québécoise.
Est-ce qu'il y a une belle... Tu sais, comme nous, les entendants, on va parfois valoriser le timbre de la voix, la diction, le choix des mots, la tempérance de la personne. Est-ce que tout ça est également perceptible dans la façon de signer?
Ah oui, tout à fait, oui. T'es... Souvent, bon, c'est des stratégies, justement, pour mon apprentissage de la langue des signes. Lorsque j'ai fait mon... Moi, j'ai déjà fait un bac en théâtre, hein, donc comment m'exprimer, comment la respiration est importante. Parce qu'on dit qu'en langue des signes, c'est pas important de respirer. Au contraire, hein, tout est relié, c'est très corporel. La ligne du temps, elle joue aussi, dans notre expression. Donc, des fois, je sais pas si je le signe bien ou si je le signe moins bien, mais tout est important. Il y a différents niveaux. Plusieurs leaders sourds qui vont signer, puis ça va être très charismatique.
Ah oui.
Donc, je pense là, qu'il doit y avoir une façon... Oui, parce que sinon, les gens, ils seront pas écoutés. Un peu comme mon entendant.
Je comprends. Mais je trouve ça intéressant de pouvoir être charismatique dans sa façon de signer, mais c'est sûr que, bon, le non-verbal... Les expressions, les émotions dans le visage, ça parle.
Oui, tout à fait. C'est un tout, exactement.
Est-ce que c'est... En fait, je suis certain que c'est difficile, mais parlez-moi des pièges ou des difficultés en lien avec s'adapter dans une culture entendante qui n'est en plus pas sa culture, maternelle.
C'est intéressant de parler de culture parce que c'est vrai que c'est pas ma culture maternelle, si on peut dire. Mais en tant que québécophile, j'ai voulu en apprendre de plus en plus. Mais ce qui m'a aidé, je pense, à rentrer, si je peux dire, dans la société québécoise et à adhérer aux valeurs québécoises, c'est la langue des signes québécoise.
Ah oui.
Parce que moi, je viens d'une culture sourde. Mm-hmm. La culture LSQ, la culture de base, hein, on est sourds, on est tous sourds, donc on a une base. Ensuite, l'apprentissage du Québec, ça s'est fait avec les sourds. Okay. Donc, on partageait la même culture de base. Ensuite, j'ai pu comme renforcer cette culture-là et l'approfondir davantage. J'ai pu comme m'éveiller et comprendre. C'est vraiment la communauté sourde et la culture sourde qui m'a ouvert la porte à la culture québécoise.
Mais ce que vous dites...
C'est
que
c'est important pour moi... Je pense qu'il y a une place pour la culture sourde, la communauté sourde. Ils font partie ensemble. On ne peut pas les séparer. Là. C'est vraiment imbriqué. Mais la société n'est pas consciente de ça. Mm-hmm. Comme dans les autres pays, par exemple en Hongrie, eux, ils ont déjà une constitution qui dit que la culture sourde fait une partie intégrale de la culture hongroise. Wow, là, c'est super de voir ça. Là, pour moi, c'est paradisiaque. Là.
Est-ce qu'il y a des romanciers, des peintres, des réalisateurs qui sont sourds et qui ont une certaine notoriété?
Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par notoriété?
Ben, dans le sens qu'ils sont connus à l'extérieur de la communauté sourde.
Ah, ça, c'est une autre chose.
Ouais.
Mais c'est sûr que dans la communauté sourde, un peu partout, oui. Tu sais, le monde sourd, l'univers sourd, oui, ils vont avoir une certaine notoriété.
Non, mais un sourd pourrait écrire un bon roman. Je veux dire, un sourd pourrait faire une belle peinture. Il n'y a pas de raison de...
Oui, tout à fait, tout à fait. Des pièces de théâtre, des livres. Dans le monde sourd, c'est ceux qui se connaissent. Il y a des arts graphiques, des arts. Mais c'est sûr qu'on sort dans le monde entendant, si je peux dire, c'est plus difficile. Comme moi, j'ai un bac en théâtre, puis c'est un programme spécialisé, c'est un bac et études sourdes. Et l'étude sourde, en fait, c'est d'avoir un point de vue théâtral avec la perspective d'une personne sourde. Donc, le visuel est très fort. Donc, comment partager ça avec le grand public? Donc, c'est vraiment là, passionnant là, comme étude, là, mais ouais, c'est...
Mais comment se fait-il qu'il n'y en a pas davantage? Je reviens à mon romancier, là. Tu sais, tout se passe dans sa tête, dans son clavier. Il n'y a aucune raison que la surdité soit un obstacle.
Moi, je pense que tout dépend de la perception qu'on a de la culture sourde de la part du monde entendant. On les voit comme des personnes handicapées, des personnes ils font donc pitié, de bon niveau, qui ne se sentent pas valorisées par rapport aux gens qui entendent. Fait que ça, souvent, c'est un obstacle qui va leur mettre des bâtons dans les roues, souvent. Comment communiquer avec un éditeur, par exemple? C'est déjà là, c'est un obstacle qui peut avoir un impact juste sur la collaboration avec les autres. Donc, il faut vraiment se battre à tous les jours là, pour se faire connaître, j'imagine. Puis pour, par exemple, l'interprète. Bon, l'interprète, des fois, est vu comme un accompagnateur. Mais non, c'est pas un accompagnateur, l'interprète. Là, elle est là pour toi aussi. Elle n'est pas là juste pour moi, l'interprète. Elle est là pour tout le monde.
Ouais, je comprends.
Donc, il faut vraiment travailler au quotidien et se battre au quotidien. Il faut sensibiliser. Il faut faire. C'est une lutte là, à n'en plus finir.
Un bon livre à me suggérer si je voulais en apprendre davantage sur la culture dans le sens artistique, mais également la culture dans le sens plus humaine de la communauté sourde?
C'est une personne qui a écrit un livre qui entend. Ça pourrait peut-être aider à comprendre un peu la culture sourde. C'est le livre de Nathalie Lachance.
Okay.
Là, je pense que c'est territoire. Je m'excuse là, pour le titre, là, mais territoire. Elle parle de l'espace des sourds, de la culture qui ne se transmet pas de façon héréditaire en ligne droite, en ligne verticale, mais elle va se transmettre de façon plus horizontale parce que 90% des personnes sourdes proviennent de familles qui entendent. Comme moi, qui a des parents sourds, on est 10% seulement. Donc, moi, mon héritage est transmis de façon verticale, alors que les autres personnes sourdes, ça se transmet de façon un peu horizontale, lors de rencontres, d'échanges avec des pères. Donc, c'est vraiment particulier comme transmission de culture. Nathalie Lachance parle de cet aspect-là
Donc,
dans son livre.
Sur Google, si jamais c'est facile à trouver, là, Nathalie Lachance, ça devrait... Sinon, tiens, peut-être un bon film qui ne nuit pas parce que c'est faux l'image qu'on dépeint de la personne sourde?
Ouf, un bon film. Souvent, on parle.
On va parler de la famille Bélier.
Oh. Bon, non, je ne le recommanderais pas, je dirais.
Parfait.
Premièrement, parce que. Des comédiens ne sont pas sourds. C'est des comédiens qui entendent.
Même les parents?
Oui, les parents, c'est des comédiens qui entendent.
OK.
Ouais. Mais oui. Donc, un bon film avec une bonne personne sourde.
Parce qu'il y a eu un crabe dans la tête.
Oui, un crabe dans la tête.
Sauf que c'était pas ça l'intrigue. C'était pas. Tu sais, j'ai pas appris grand-chose sur les sourds. J'ai juste.
Oui, c'est ça. Mais souvent, les films avaient, je dirais que dans les années 50, on va parler plus de personnes sourdes qui vont à l'école. C'est plus, c'est comme si un pauvre lui est sourd, on va y apprendre à parler. Donc, Okay. Mais j'essaie de voir. Les Enfants du silence, je pense qu'il y avait un comédien sourd qui avait eu un Oscar même lors de ce film-là. Les mais là, si je regarde le film aujourd'hui, ça date, là, ce film-là. Mm. Là. C'est comme un stéréotype. C'est pas...
Fait que il est pas fait, le film idéal, c'est ce que j'entends.
Oh non. Non.
OK. Alors peut-être que celui qui a un bac en théâtre va vouloir écrire un synopsis ou un scénario ou quelque chose là.
Ah, peut-être. Ouais, peut-être.
Quelque chose pour toi. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous partager ce qui est encore un peu mystérieux pour nous, mais je pense que c'est avec des moments comme ceux-là que le mystère va dissiper doucement.
Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup pour l'invitation.
Darren Saunders, dit Daz, Joël Fortin, merci beaucoup. Merci à Christiane Campagna qui a réussi à filmer tout ça. Et ben à vous, merci parce que si vous nous écoutez, c'est que vous vous êtes abonné à Accès Libre. Sinon, si vous nous écoutez sur le site, ben faites-le la prochaine fois. Vous ne serez pas obligé de zigonner pour aller sur le site. Chaque fois qu'Accès Libre va rentrer dans votre petit téléphone bien sympathique, ben vous aurez les extras si jamais il y en a. À bientôt. Merci Maurice Bolduc.